31. Tac. Normalement, cette fois, mes lunettes sont en bon état. Voilà. Donc, c'est Luc 15, 11 à 31. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit : Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort. Et il est revenu à la vie, il était perdu, et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit : C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit : Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et voici, il est retrouvé. Alors dans ce texte, on voit deux profils bien différents. Hein, un frère qui est plutôt aventurier, plein d'énergie, qui veut croquer la vie à pleines dents. Et puis il y a le grand frère qui est plutôt casanier, attaché à sa vie actuelle. Il ne veut pas partir, il est bien dans son train-train quotidien. Et puis on voit aussi un papa qui aimerait bien que ces deux caractères qui sont si différents puissent cohabiter et travailler ensemble. On va commencer par étudier le plus jeune, le fils qu'on appelle le fils prodigue. Donc lui, comme j'ai dit, hein, il veut croquer la vie à pleines dents, hein, il est prêt à manger la chandelle par les deux bouts. Pour lui, dans cette maison, comme diraient les jeunes, il rouille un peu, il ne se passe pas assez de choses, la vie est trop monotone pour qu'elle l'intéresse vraiment, elle manque de piment. Et il décide de partir en dépit de tout. Et on peut même imaginer que son attitude, il voit que ça blesse son père. Mais pour autant, il va partir vivre son aventure. Il y a quelques années, il y a un chanteur que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Michel Delpech, qui a chanté qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour un flirt, pour un baiser. Et il y a un moment, dans sa chanson, il dit même qu'il est prêt à être damné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ces paroles. Il est prêt à rompre la relation avec le Père de toute chose, de toute la création, pour une petite aventure, pour un baiser. Et ce fils prodigue, c'est la même chose. Il est prêt à casser la relation avec son père, pour à peu près les mêmes raisons que Michel Delpech, je pense. Et c'est pas le sujet ce matin, mais j'ouvre quand même une petite parenthèse, parce que ça peut aussi vous faire réfléchir pour celles et ceux qui sont en recherche de relations amoureuses, que c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, même si nos contemporains le chantent. Mais revenons à notre fils prodigue. On voit qu'il va briser cette relation avec son père, puisqu'il va lui demander sa part d'héritage. Et en général, quand on reçoit un héritage, c'est quand la personne elle est décédée. Ça veut dire que le jeune homme, il est prêt à considérer son père comme mort, tout ça pour pouvoir vivre sa petite aventure. Quelle violente rupture pour le père. Et pourtant, le père, il va donner non seulement sa part d'héritage, mais si on regarde dans la version grecque, le mot qui est utilisé, c'est le mot bios, c'est-à-dire que le père donne sa vie. Il est prêt à laisser partir son fils, car il préfère le savoir vivant, même si lui-même est déchiré. Est-ce que ça ne nous ramène pas à notre propre Père Céleste, lui qui a donné son fils, qui s'est séparé de lui, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et malheureusement, ça me ramène aussi à moi, et aux trop nombreuses fois où j'ai su que je faisais mal à mon père, et pourtant, j'ai décidé de prendre le mauvais chemin et d'en faire quand même à ma tête. Et combien de fois notre petite voix intérieure nous dit que ben, on va peut-être faire mal à un tel ou à telle personne, et pourtant notre égoïsme nous pousse à tout quitter, à tout briser pour une petite aventure. On va lire la suite du texte dans les versets 13 à 16. Donc le fils, ça y est, il a brisé la relation avec le père, il est parti, et la Bible nous dit « Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu, et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs, garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. » Pourtant, s'il avait réfléchi un petit peu avant de partir, il aurait pu se douter que la fin allait être un peu de ce style-là et que le feu de paille n'allait pas durer, malgré le fait qu'il ait récupéré un peu d'argent de son père. Mais son orgueil a fait qu'il est parti quand même, en se disant que il allait bien pouvoir gérer, il allait bien pouvoir diriger sa vie tout seul, qu'il n'avait plus besoin de son père. Et finalement, des fois, ma vie avec Dieu, elle devient secondaire. Et ce qui est important aux yeux du Fils, et parfois au nôtre, c'est qu'on puisse vivre notre vie à fond, à notre guise, à notre façon. Et les conséquences, on va les voir un peu plus tard. Et là, donc, le jeune homme, il a brûlé sa vie, il l'a consumée à toute vitesse. Et il l'a tellement brûlé qu'il tombe au plus bas, puisqu'il se retrouve à garder les porcs. Alors, je ne sais pas si vous imaginez pour un juif ce que ça veut dire. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, j'avais un camarade musulman qui n'était pas dans ma classe. Donc, quand on se croisait, on se disait bonjour. Mais si c'était l'après-midi et qu'on avait mangé du porc à la cantine, il refusait de nous serrer la main, parce que pour lui, on était impurs, parce qu'on avait mangé du porc. Et pour les juifs, c'est le même rapport. Hein. Pour les juifs, le porc aussi était impur. Et là, on voit ce jeune homme, qui est un jeune juif, Lui, il n'a pas touché quelqu'un qui a touché des porcs. Lui, il devait toucher des porcs pour pouvoir survivre. Donc vraiment, il était tombé au plus bas. Mais il y a quelque chose de bon quand on est au fond du trou, c'est que ça nous pousse à réfléchir. Et c'est ce qu'il fait, ce jeune homme. Hein. On voit dans la suite, les versets 17 à 19. « Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici, à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Quand on s'arrête pour vraiment réfléchir, on réfléchit en général un peu plus sérieusement. Et là, notre ami, il commence à réfléchir en vérité. Il commence à laisser tomber son orgueil. Et c'est souvent ça qui va nous empêcher de revenir vers Dieu. C'est justement notre orgueil. On n'ose plus être vrai devant lui. Mais si on réfléchit avec notre intelligence, comme le fait le jeune homme là, à ce moment-là en tout cas, on réfléchit mieux que quand on réfléchit avec nos émotions, comme il l'a fait au début, en se disant « Allez, je vais prendre l'argent de mon père, je vais aller m'éclater. » Et ça, il s'est laissé guider par ses émotions plus que par son intelligence. C'est un peu comme si, quand moi je vais à la boulangerie, à chaque fois, je craquais sur les pâtisseries et que je repartais avec des pâtisseries. Ben, je réfléchirais avec mes émotions. Mais ça ne serait pas bon pour ma ligne, pas bon pour ma santé, pas bon pour mon porte-monnaie. Bon, il se trouve que je vais à la boulangerie et je réfléchis avec mon cerveau et je repars malheureusement sans pâtisserie, mais c'est mieux comme ça. Et finalement, ce matin, comme ce jeune homme, je voulais vous inviter à vous regarder dans le miroir, à vous regarder en face et en vérité. Et peut-être que ce que vous allez voir dans le miroir, ce n'est pas ce que vous essayez de montrer, ce n'est pas ce que vous essayez de dégager. Et peut-être que l'image que vous allez voir dans le miroir, bah, elle n'est pas si belle que ça. Mais ce n'est pas très grave dans le sens où si vous commencez à le reconnaître, c'est que vous avez déjà fait un premier pas. C'est un peu comme quand on est malade. Comment on peut soigner si on n'est pas prêt à reconnaître notre maladie? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes éloigné de votre Père Céleste. Mais si vous pouvez le reconnaître, alors vous pouvez lui parler et lui dire « Oui, j'ai échoué, j'ai fait des choses sans toi, mais je le reconnais et je veux revenir à toi. » Et ce petit frère, dans cette histoire, c'est ce qu'il va faire. Il va retourner vers son père. Mais quand on réfléchit à cette démarche, c'est compliqué. C'est une démarche compliquée de rentrer à la maison. Parce que qu'est-ce que ça implique pour ce jeune homme? Ça implique d'affronter le regard des autres. Hein, si une personne qui a quitté notre assemblée et son Père Céleste, elle décide de revenir, même si son expérience lui a montré que bah, finalement Dieu est un Père d'amour, est-ce qu'il ne va pas être jugé par les aînés quand il va rentrer à la maison? Alors veillons à recevoir nos frères et sœurs prodigues avec le même amour que notre Père a quand il les reçoit. Mais bon, voilà, ici, notre jeune homme, il a mûrement réfléchi, il sait ce qu'il veut, il est prêt, il y va. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les versets suivants. Donc, dans Luc 15, les versets 20 à 24, il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et là, je trouve que dans ce passage, il y a un gros encouragement pour nous ce matin. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous vous retrouvez devant ce miroir, peut-être que vous voyez cette image qui est de vous qui n'est pas si belle et que vous avez envie de revenir vers le Père et que, effectivement, ce n'est pas si simple que ça, de revenir vers son Père. Mais il y a quelque chose d'écrit là dans le texte qu'on vient de lire qui est intéressant, qui dit « Son Père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils. » Et Dieu sait que ce n'est pas facile. Mais Dieu, il connaît notre cœur, il connaît notre sincérité, et il va faire le plus difficile. Il va faire les derniers mètres. Ces derniers mètres qui sont les plus compliqués pour revenir à Dieu. Et peut-être qu'on peut se dire, mais en rentrant, je vais être jugé, je vais être rejeté. Peut-être qu'on va se dire, je ne sais plus prier. Peut-être que on a même peur de rouvrir sa Bible. Mais Dieu, il sait tout ça. Et c'est pour ça que c'est lui qui fait les derniers pas. Et d'ailleurs, au verset 20, on voit que c'est plus que les derniers pas, puisqu'on nous dit qu'il voit son fils à une bonne distance et qu'il va parcourir cette bonne distance pour aller vers son fils. Et donc le fils fait les premiers pas et le père fait les autres, les plus difficiles. Et peut-être que tu es dans cette situation, toi, aujourd'hui, mais sache que Dieu est là pour t'encourager, pour t'accueillir, pour t'accompagner et te réconforter. Et si tu veux revenir, il fera le reste du chemin pour venir à toi parce qu'il t'aime. Même si tu es parti faire les 400 coups. On voit dans l'histoire, le père, il se jette au cou de son fils et il l'embrasse. J'imagine un peu cette scène, je ne sais pas si vous vous rappelez d'où revient le fils. Aux dernières nouvelles, avant de rentrer, il gardait les porcs. Donc on peut imaginer qu'il n'est pas très propre, on sait comment vivent les cochons. On peut imaginer qu'il pue, et en plus il a fait la route, probablement sous le soleil, à pied j'imagine, donc sale, puant, transpirant. Qui aurait envie de prendre une telle personne dans ses bras. Mais notre Père, lui, il n'est pas dégoûté par cette odeur, qui d'ailleurs nous dégoûte probablement nous-mêmes, parce qu'en général, on sait pourquoi on pue. Et il nous serre dans ses bras et il nous embrasse. Et c'est important de comprendre et d'accepter que nos salissures ne doivent pas être un frein pour retourner à notre Père. Alors pour ceux qui étaient là il y a 3-4 semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire qu'on avait vue dans Zacharie au chapitre 3, on avait vu que Dieu changeait nos habits qui étaient très sales pour nous mettre des habits de fête. Et on retrouve exactement cette même image dans cette histoire. C'est ce que le Père fait dans l'histoire, il va donner sa plus belle robe à son fils et il va faire la fête. Exactement comme ce qu'on avait vu dans Zacharie 3. Alors maintenant qu'on s'est bien acharné sur le petit frère, on ne va pas laisser le frère aîné de côté, ça va être son tour maintenant. Vous savez, celui qui est resté, celui qui s'est interdit de faire n'importe quoi, celui qui est resté fidèle, fidèle à son père, fidèle à son église. L'exemple parfait, quoi. On va prendre la suite dans le verset 25, qui nous dit « Pendant ce temps, je vais vous mettre le texte. Le fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. » Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors on va voir la suite. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. » Ton père, non, si c'est ça, Oui, pardon. Ouais. C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Il est un peu en colère, le grand frère, et il va rentrer dans une attitude de jugement. Et laissez-moi vous poser cette question. Vous qui avez été fidèle, vous qui avez résisté au chant des sirènes, vous qui avez a priori une vie parfaite, pourquoi vous avez tant de colère vis-à-vis des aventuriers qui n'ont pas pris le droit chemin ? Alors, je vais vous donner la réponse parce qu'on est tous concernés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois sentiments qui peuvent naître dans notre cœur. Il y a un sentiment de rejet, parce qu'on est dégoûté, qu'on a du mépris. Il y a un sentiment d'injustice, on trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Et parfois, malheureusement, il y a aussi un sentiment de jalousie. Mais ça peut se comprendre. Si on relit le texte, qu'est-ce qui se passe pendant que certains chantent et dansent ? Ben lui, il bosse, il travaille. Non seulement cette fête, à ses yeux, c'est n'importe quoi, mais en plus, on ne l'a même pas mis au courant. Et il y a pire que ça. Quand le petit frère il est parti au début, il est parti avec sa part à lui d'héritage. Donc avec quoi on finance cette fête finalement ? Ben avec ce qui reste, c'est-à-dire la part du fils aîné. Donc, le grand frère, non seulement on l'a pas prévenu, mais en plus, le petit frère, il est en train de faire la fête avec sa part de l'héritage. Non mais on va où là ? Finalement, quelque part, elle est presque justifiée, sa colère. Son petit frère, il revient, on ne le prévient pas. On fait une fête, on ne prend pas le temps de l'inviter. Alors que lui, il a toujours été fidèle. Et par-dessus le marché, on fait la fête avec son pognon. Non mais honnêtement, qui serait pas en colère à sa place ? Donc on voit là la colère du fils dans les versets 28 et 29. Alors le fils aîné se mit en colère, et on le comprend presque, et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Quelle frustration. Il est blessé, il a l'impression que son père il fait des différences. Et là-dessus vient se greffer un sentiment d'injustice. Cela fait des années que je suis à ton service. Et si on prend à nouveau le texte en grec, ce n'est pas le mot « service » qui est utilisé, ou « servir », c'est un mot qui est encore plus fort que ça, c'est le mot « douléo », qui a donné le mot « douleur ». Donc il y a une notion dure du travail, une notion dure du service. Là, ce qu'il est en train de dire à son père, c'est « Je t'ai servi comme un esclave. J'ai été fidèle, mais ça m'a coûté cher. Je me considère comme un esclave. » Alors, soyons vigilants que des mensonges ne viennent pas se glisser en nous, parce qu'on a été fidèle à notre Dieu, parce qu'on a été obéissant, parce qu'on a été esclave de la justice. C'est dans Romains 6, 18, on lui dit qu'on est passé d'esclave du péché à esclave de la justice. Et à cause de ça, on trouve injuste que les autres qui rient et qui dansent pendant que nous, on s'accroche pour être fidèles. Et on en vient presque à reprocher nos choix à notre Père. Tu as fait de moi un esclave. Et finalement, ce fils qui n'est jamais parti, quelque part, lui aussi, il a quitté son père. À tel point qu'au verset 28, on nous dit qu'il refuse de passer le seuil de la porte. Ça me rappelle une fois où, un dimanche matin, j'étais vraiment en colère. Je ne sais plus pourquoi, c'était il y a longtemps. Rassurez-vous, ce n'était pas dans cette église. Et je suis venu au culte quand même, et je n'ai pas chanté de toute la présidence. J'étais en boucle dans ma colère, et je n'en suis pas sorti, et je n'ai pas participé au culte. Alors, est-ce que vraiment, ce jour-là, j'étais plus proche que celui qui avait quitté les bancs de l'église? Par contre, il y a quelque chose qui est très frappant dans l'attitude du père. C'est qu'il se comporte avec le frère aîné exactement comme avec le plus jeune. Il va sortir pour aller le chercher. Il va aller vers lui. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on disait que Dieu vient vers nous. Et là, c'est pareil. Le père, il va aller vers lui. Il va aller le chercher pour le supplier de rentrer. Et donc, à nouveau, le père va vers son enfant. Et il va lui dire, on va voir ça au verset 31. « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. » Alors, je répète ma question. Pourquoi cette colère, ce sentiment d'injustice dans ton cœur, alors que notre Père te donne tout? Ce fils aîné qui est resté fidèle à son Église, il pense que ça lui donne le droit d'être le défenseur des vraies valeurs. Et finalement, on est tous un peu ce fils aîné par moment. Parfois, on se dit, les autres se permettent de faire des choses, mais nous, on ne les fait pas. Et à vouloir être trop strict avec les autres, est-ce que des fois, nous aussi, on n'a pas un petit problème d'orgueil? Est-ce qu'on n'est pas victime du syndrome du moi-je? Moi, je lis ma Bible. Moi, je prie tous les jours. Moi, je n'ai pas quitté l'église. Et lui, regarde-le. Et c'est ça ce qui se passe dans le texte. Si on prend le verset 30, on voit comment l'aîné va parler de son petit frère. Il va dire « celui-là ». C'est dur comme parole. « Celui-là, ton fils ». Et la suite du verset, elle est encore pire. Et elle dévoile toute l'horreur de notre mauvaise nature. Donc c'est le verset 30. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mais dites-moi, comment il sait qu'il a couché avec des prostituées? Il était avec lui? Non, il est resté à la maison pendant que son frère est parti. Il n'a jamais été avec lui, donc il ne l'a pas vu faire. C'est son petit frère qui lui a dit. Sûrement pas, ils ne se sont pas encore parlé. Pour le moment, il est en train de faire du boudin. Il ne parle pas avec son petit frère, donc il est au courant de rien de la vie de son frère pendant son absence. Alors, conclusion, le frère aîné, il a porté un jugement sans savoir. Et le texte ne le dit pas, mais peut-être qu'il est en train de rejeter finalement sur son petit frère ses propres frustrations. Pardon. Et il se pose en défenseur des vraies valeurs. L'autre, celui-là, il s'est permis de faire ça, sans même savoir si c'est vrai. Hein, il ne sait pas ce que le cadet a vécu. Même nous, on ne le sait pas, ce n'est pas écrit. On sait qu'il a été dans la débauche, mais on n'a pas les détails. Mais l'aîné, lui, il a des idées qui sont bien conçues, et presque, on saurait ce que lui aurait fait s'il était parti. Et la remise en question de ce matin, c'est quelle attitude moi j'ai envers celui qui a commis une faute? Est-ce que j'ai une attitude de jugement? Est-ce que je vais dire à mon père, regarde ce que celui-là a fait? Ou est-ce que, comme mon père, je vais sortir à son rencontre pour l'encourager, pour l'accueillir, pour l'accompagner et le réconforter? Et pour finir avec le fils aîné, parce qu'on a encore des choses à dire sur lui, on en vient au problème de jalousie. Alors, je vais reprendre les versets 29 et 30. Mais il répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » Et malheureusement, c'est ce qu'on fait tous. On compare la vie des autres à la nôtre. Et quand on voit les autres faire la fête, on se dit que moi, j'ai pas eu le droit à ça, alors que j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. La comparaison tue. Je compare ma vie à celle de l'autre, et comme je peux pas la vivre, ben je la critique. Et finalement, est-ce que quelque part, ce fils aîné, c'est pas moi? Moi qui ai grandi dans l'Église, qui ai été présenté quand j'avais quelques mois, hein, aussi loin que mes souvenirs me ramènent, je me rappelle toujours être allé au culte, à l'Église. En plus, mon grand-père était pasteur. Alors vous voyez, pour moi, Dieu, ça a été une évidence toute ma vie. Alors pour moi, c'est facile. C'est facile de juger les autres. C'est facile de me comparer à eux. C'est facile de les condamner, de les rejeter. C'est facile pour moi de regarder les autres avec mépris et dédain et de dire « Moi, j'ai jamais fait ça. » Est-ce que pour autant, ça fait de moi quelqu'un de meilleur? Est-ce que mes pensées font de moi quelqu'un de meilleur que mon frère ou ma sœur qui est passé aux actes? Alors je vous invite vraiment à ce qu'on puisse éviter de nous comparer. Et rappelons-nous que ce ne sont pas toujours les actes qui font de nous des pécheurs. Ça peut être nos pensées. Et finalement, face à mes mauvaises pensées, j'ai plutôt envie de sentir l'amour du Père qui me dit « Tout ce que j'ai est à toi » pour que je puisse revenir à lui. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette phrase « Tout ce que j'ai est à toi », c'est que si on connaît la culture hébraïque, la part qui reste d'héritage à l'aîné, elle est plus importante que celle de son petit frère. Parce que comme il est l'aîné, il bénéficie du droit d'aînesse et donc il a une double part sur l'héritage. Et c'est là qu'on voit l'amour infini de Dieu et que notre Père Céleste, il a une justice qui est tout autre que la nôtre. C'est un peu comme un clin d'œil de Dieu où on peut voir qu'il y a quelque chose de bon pour celui qui reste fidèle. Et en rappelant à l'aîné que tous ses biens sont à lui, il lui rappelle que finalement son petit frère, il a eu qu'un tiers de l'héritage. Alors plutôt que d'être médisant, d'être dans le jugement et d'être jaloux, apprenons plutôt à être reconnaissants. Apprenons à dire merci. Et ça nous protégera du sentiment d'injustice, du sentiment de rejet et du sentiment de jalousie. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est le Père, évidemment, sa volonté, son cœur, d'unir les deux frères. Il veut unir l'aventurier et le casanier. Il veut unir ses enfants dans l'Église, malgré leurs différences. Il veut nous unir, nous, frères et sœurs, malgré nos tempéraments et nos appréhensions différentes. Et il veut que celles et ceux qui restent et celles et ceux qui reviennent puissent manger à la même table et faire la fête ensemble. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 31 et 32. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Et peut-être que ce matin tu t'es reconnu dans un des deux frères, ou probablement, malheureusement, comme moi, même dans les deux. Alors rappelle-toi que ton Père Céleste, lui, il n'a aucune préférence entre les deux. Et que si tu veux revenir à lui, quelle que soit ta situation, il t'attend, il sortira et il reviendra vers toi. Il viendra vers toi. Je vous invite à prier. Seigneur, on veut te remercier pour cette histoire qui nous rappelle que, quelle que soit notre place, notre position, notre façon de vivre notre foi dans l'Église, toi, tu es celui qui nous aime et qui vient vers nous. Tu nous enseignes aussi par ce texte à aimer mon frère, ma sœur, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation. Tu nous invites à ranger notre orgueil dans notre poche. Et ce matin, en tant qu'Église, on voudrait te demander pardon pour toutes ces fois où on porte des jugements sur un frère, sur une sœur. Et on veut te demander de nous aider à nous débarrasser de cet orgueil qui est si mauvais, qui nous donne si mauvais sentiments les uns pour les autres. Et on veut être reconnaissant pour cet amour que tu as pour nous. Merci parce que tu viens vers nous, quel que soit notre état, qu'on soit propre, qu'on soit sale. Tu es là, tu viens vers nous, tu nous changes nos habits et tu nous prends dans tes bras, quelles que soient notre condition, nos situations. Et on veut être reconnaissant pour cela. Et ce matin, on veut prendre aussi ce temps autour de cette table, de ce repas, et le vivre peut-être un peu différemment d'habitude. On veut vraiment s'unir autour de cette table, Seigneur, pour que ensemble on puisse mettre nos jugements de côté et se dire que nous sommes tous des enfants, qu'on soit aîné ou qu'on soit le petit frère, qu'on soit le grand frère, la petite sœur, la grande sœur, peu importe, tu nous aimes pareil, tu ne fais aucune différence entre nous. Et voilà, on veut vraiment prendre ce repas ce matin dans cet état d'esprit. Merci pour ton amour, ta présence parmi nous ce matin, et merci aussi de nous accompagner sur cette semaine pour qu'on puisse aussi travailler sur nos sentiments et nos rapports les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. Et donc j'avais proposé à Jérémy qu'on puisse justement prendre la Sainte Cène en fin de culte pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble autour de cette table malgré nos différences. Et si on pouvait vivre cette scène ce matin dans une... Ça devrait être toujours dans cette unité-là, mais qu'on puisse particulièrement y penser ce matin. Voilà, je vous invite à ça et je laisse Jérémy gérer le repas.
Merci Luc. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi maintenant on a souhaité faire ce temps de Sainte Cène en fin de culte. Comme nous l'a rappelé Luc, on vient de finir ce passage qui nous a été lu avec un repas. Un repas où c'est le Père qui va vers les enfants. C'est le Père qui propose une solution. C'est le Père qui rétablit. Et en fait, on voit aussi que cette grâce qui est accordée à ces enfants, c'est une grâce qui vient pleinement et entièrement du Père. Quoi qu'aient fait les enfants, à aucun moment, ils ne sont dignes par eux-mêmes d'entrer en présence du Père et de pouvoir festoyer avec le Père. C'est le Père qui vient les prendre, qui leur tend la main et qui leur pardonne, qui les justifie. Et cela nous rappelle que notre salut est en Christ. Nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour ce salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps, eh bien c'est en souvenir du sacrifice de Jésus que nous voulons prendre ces éléments. Cette commémoration que nous prenons, elle est solennelle. Elle est solennelle et elle n'a de sens que si nous nous sommes déjà engagés de façon pleine et entière dans une démarche d'obéissance, une démarche qui a été aboutie en passant par le baptême. Et si ce n'est pas le cas ce matin, si nous n'avons pas encore fait cette démarche, nous vous invitons à laisser passer ces éléments. Nous vous invitons à vous laisser interpeller par Dieu. Peut-être que ce matin, dans votre cœur, il peut y avoir une forme de tempête, une rage, quelque chose qui fait que vous ne vous êtes pas encore décidé. Eh bien, laissez passer ces éléments. Prenez ce temps de la réflexion pour vous interroger réellement sur ce qui a été fait sur cette croix. Est-ce que cela vous concerne ? Je pense que oui. Peut-être que ce matin, pour certains d'entre nous, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Nous vous invitons à les déposer instamment au pied de la croix pour pouvoir prendre ces éléments et nous rappeler ainsi de ce que Jésus-Christ a vécu pour nous sur cette croix. Je vais appeler Dino, Flo et Mathias pour m'aider dans la distribution de ces éléments. Et je vais demander, Mathias, si tu veux bien prier pour ce temps de Sainte-Seine.
Prions. Seigneur, merci pour cette leçon, ce rappel immense avec ce message de Luc. Et on veut se rappeler cet amour immense que tu nous as porté. Amen.